Donc l'association Play Europe, donc ça va faire 2 ans en fait qu'on existe sur la ville et l'agglomération en fait en général. On propose en fait des temps d'animation où on va mettre en avant en fait le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo en fait c'est sur un aspect pédagogique, créateur en fait de liens sociaux. Donc c'est créer des rencontres autour du jeu vidéo, c'est sortir les consoles en fait du salon. Et que des gens en fait qui ne se connaissent pas, ou même des gens qui viennent en famille, qui puissent profiter de différents jeux qu'ils connaissent pas, ou même en fait pour certains un petit peu nostalgiques de redécouvrir en fait certains jeux ou même comment ils ont évolué. Donc c'est utiliser le jeu vidéo en fait de cette manière-là, donc aussi de manière préventive. Donc on parle à la fois donc aux enfants, aux adolescents en fait à toute la famille sur les problématiques que peuvent aussi provoquer en fait le jeu vidéo. Ça peut apporter en fait certaines choses, ça peut aussi créer en fait par exemple des conflits aussi dans la famille, ça peut être aussi l'occasion en fait d'en discuter avec différentes personnes de l'association.
Alors justement, on va en discuter avec non pas des personnes de l'association, mais deux personnes de la radio, puisqu'on a Julie et Arthur, j'ai oublié de vous présenter, mea culpa. Comment vous allez ?
Bien, et toi ?
Bien, super, bon, tant mieux. Alors en fait, le but de l'émission aujourd'hui, ça sera vraiment de débattre autour de la réalité virtuelle et augmentée dans le jeu vidéo, notamment, puisque évidemment, c'est ce qui te concerne, toi Samuel, et l'association Player Up. Alors pour ça, on va commencer et on va écouter Arthur, qui nous a concocté une petite définition, une petite chronique sur ce qu'est la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Alors... déjà, première question, Arthur, est-ce que tu peux nous parler de la réalité augmentée ?
Dis-nous tout.
Qu'est-ce que c'est la réalité augmentée ? Bonne question.
Alors, la réalité augmentée est une technologie qui permet de superposer un élément réel et un élément virtuel. Par exemple, vous prenez un jeu Pokémon Go. Par exemple, les créatures du jeu Pokémon Go, c'est des créatures imaginaires. On l'utilise à partir de la caméra de notre smartphone. Ou de la webcam, si vous préférez. La réalité augmentée utilise plusieurs supports aussi, que ce soit smartphone, tablette tactile et bientôt lunettes connectées dans le futur en espérant que ça arrive. Donc voilà.
Alors du coup, il faut quand même faire la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Est-ce qu'on peut la faire tout de suite ? Est-ce que tu peux nous dire la différence un peu entre les deux, Arthur ?
La différence en fait, c'est que d'un côté, vous avez la réalité augmentée, donc qui se passe surtout sur smartphone et tablette. Et de l'autre, vous avez la réalité virtuelle qui se passe surtout avec les casques.
Oui, en fait, le but de la réalité augmentée, c'est vraiment d'améliorer, entre guillemets, ce qu'on voit à l'œil nu et la réalité, finalement. Alors que la réalité virtuelle, c'est vraiment créer un monde abstrait. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition-là, Samuel, ou pas ?
Créer un univers en fait virtuel et où on peut en fait incarner un personnage et prendre en fait sa peau et évoluer en fait dans l'espace en fait pour devenir le personnage du jeu.
Alors justement, en jeu vidéo, c'est presque le secteur phare de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. On verra un peu tout ça après. Arthur, à quoi ça sert finalement la réalité augmentée ? Est-ce que ça a un intérêt à ton
oui.
avis ?
La réalité augmentée a différents usages. Donc ça peut être parfois ludique et pratique. Donc par exemple, vous êtes dans un musée, vous visitez le Louvre, vous connaissez pas le tableau qui se situe en face de vous. Vous prenez votre smartphone et vous positionnez devant le tableau. Grâce à certaines applications, vous pouvez prendre en photo l'application.
Oui. Oui, c'est ça.
Pour l'instant, on en photo ça... l'application. Non,
le tableau. Oui, le tableau.
Le tableau, pardon, excusez-moi. Le tableau. Et après, après avoir pris la photo du tableau, vous pouvez utiliser les informations qui sont données pour vous renseigner à propos du tableau.
Et en fait, ça apparaît au moment de la photo, ces informations-là.
Ou vous faites une recherche, vous demandez une recherche à certains... à votre smartphone ou à votre tablette.
Est-ce que tu as d'autres exemples de réalité augmentée, peut-être pour cerner un peu le sujet, parce que c'est vrai qu'il y a des multitudes d'exemples par rapport à la réalité augmentée.
Eh bien oui. Donc par exemple, l'application Makeup Genius de L'Oréal, c'est une application qui permet aux clients et aux clientes d'essayer du maquillage en virtuel. Et donc... on se place comme si devant comme on se place devant notre smartphone, comme si on était devant un miroir, et on essaye le maquillage, tout simplement.
Tout simplement.
Et le maquillage suit notre tête quand on la bouge.
Alors du coup, est-ce que dans le monde du jeu vidéo, je me tourne vers toi Samuel, est-ce que dans ce monde-là, il y a plus de réalité augmentée ou virtuelle? Est-ce que ce sont deux choses qui peuvent venir en complément ou c'est vraiment deux choses différentes?
C'est quelque chose en fait qui peut même rentrer en complément. Donc là, j'ai pour exemple donc une technologie qui va bientôt arriver et que Microsoft en fait s'appelle la réalité mixte, où on pourra en fait utiliser nos casques de réalité virtuelle, dont un en fait par exemple le HTC Vive qui existe déjà, qui a une caméra en fait qui est intégrée dessus, où on pourra justement dans la réalité en fait où on évolue rajouter des éléments numériques directement en fait par dessus. Mm-hmm. Donc ça va être aussi de la réalité mixte où on aura le casque de réalité virtuelle qui va rajouter en fait des éléments en trois dimensions en fait dans le jeu, alors que quand on le fait actuellement à partir d'un smartphone ou d'une tablette, ça reste en fait un rendu en trois dimensions mais sur un écran qui est plat, donc ça reste en fait de la deux dimensions. Va être un mélange en fait des deux technologies, c'est en train d'arriver.
Alors pour le coup, je parle en connaissance de cause, j'ai testé sur le stand du festival Quartier Libre, la réalité virtuelle, à l'époque c'était en octobre, hein, je crois, c'est ça Julie, hein.
Oui.
C'était début octobre. Vous étiez, en tout cas l'association PlayerUp était à Quartier Libre avec un stand, etc. Et vous proposiez de tester de la réalité virtuelle. Et j'étais assez surpris parce que le jeu, c'est vrai, on rentre complètement en immersion et on a finalement cette sensation de plus appartenir au monde réel et vraiment d'être plongé dans le cœur du jeu. Est-ce que déjà c'est tous les jeux comme ça ou il y a aussi des progrès à faire à ce niveau-là? Comment ça marche et, comment ça marche à ce niveau-là sur les jeux vidéo et la réalité virtuelle?
Tout dépend déjà aussi le type de jeu en fait auquel tu veux faire en réalité en fait virtuelle. Donc celui qui était proposé à Quartier Libre, donc c'était un jeu qui s'appelle Super Hot.
C'était un jeu de guerre grosso modo, en tout cas fallait.
Donc on incarne en fait un personnage où la particularité, donc déjà il y a des ennemis en fait qui arrivent vers nous, sauf que plus on va prendre notre temps en fait dans le jeu, plus le jeu en fait va être lent. Donc on peut jouer en fait un petit peu à Matrix, où on pourra éviter les balles, attraper en fait les éléments en fait du décor, etc. Et il y a aussi d'autres manières en fait de jouer avec la réalité, les réalités virtuelles. Mmh. Un jeu qu'on propose en fait régulièrement, parce qu'en fait la réalité en fait pas augmentée, pardon, la réalité virtuelle. C'est quelque chose en fait qui enferme en fait mine de rien le joueur. Donc comme tu disais en fait, il est coupé du monde.
Il est immergé en fait.
Voilà, il est immergé. Et il existe en fait un jeu par exemple sur PS4 qu'on utilise régulièrement pour pouvoir le proposer à toute la famille. Parce qu'on les jeux en fait en réalité virtuelle, on les propose à partir de 12 ans. Voilà pour des.
Pour des raisons sanitaires ou
pour des raisons en fait de santé, surtout parce que la croissance en fait n'étant pas terminée, donc il est conseillé, il n'y a pas encore d'études poussées qui ont été faites dessus pour le moment, de le faire en fait à partir de 12 ans quand la croissance des yeux en fait est terminée.
Alors je vois Julie lever le stylo ou le doigt ou
les
un
deux.
Doigt bleu, les deux. Julie, on t'écoute, tu as quelque chose à dire par rapport à
alors,
ça?
Alors oui, donc je vois bien qu'il y a une limite d'âge, mais est-ce que c'est pas dangereux quand même? Parce que pour l'avoir essayé moi, on m'a fait sauter d'un building. Et j'ai réellement eu peur.
Oui.
Vraiment. Donc, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut faire des parano?
C'est vrai que la question des risques liés à la réalité virtuelle, elle se pose aussi.
Elle se pose aussi parce que c'est une nouvelle technologie et que justement, il n'y a pas eu d'études en fait assez poussées qui a été fait en fait sur la question. Mmh. Tout à l'heure, en fait, je voulais parler en fait d'expérience de jeu donc différente par rapport à ce que tu me demandais. Ça reste aussi une expérience en fait de jeu en fait qui est complètement qui est complètement différente. Et donc après, c'est comme n'importe quel jeu. Bon, après, je pense personnellement, et aussi par rapport aux discussions qu'on a eues en fait au sein de l'association, qu'il faut que les sessions de jeu, vaut mieux en fait les faire courtes. Parce qu'il y a aussi le problème, ça reste en fait des écrans qui sont très proches en fait des yeux. Donc on est à moins de 5 cm en fait des yeux. Donc après, sur une exposition en fait assez longue, est-ce que ça peut pas en fait abîmer en fait nos yeux? Ça reste en fait ça reste à voir,
à définir, et puis
ça, voilà. Donc comme je disais, en fait on attend en fait des réponses et des études en fait autour de ça. Donc l'association aussi les attend pour justement avoir un positionnement en fait assez fixe en fait sur la question. Donc là nous en fait on a mis 12 ans par rapport en fait aux conseils qui sont donnés en fait au jour d'aujourd'hui. Et après aussi, ça pourrait en fait nous permettre, lorsque nous on propose des expériences de réalité virtuelle, de voilà, il est déconseillé de faire des expériences de jeu de plus de 20 minutes, par exemple. Eh bien, nous sur nos stands, en fait, on va limiter à 20 minutes, parce qu'on est surtout là en fait pour faire découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de jouer, et pas mettre les gens en fait en danger. Et donc ton expérience justement de saut dans le vide ou autre. Donc là, c'est quelque chose aussi que j'ai lu il y a quelques semaines. Où je sais en fait qu'il y a certaines en fait organisations ou je sais plus trop en fait l'utilisent pour lutter justement contre les la réalité augmentée la réalité virtuelle pardon pour lutter contre les phobies le vertige etc.
Est-ce que ça veut dire que si on est arachnophobe par exemple on va nous plonger dans un monde plein d'araignées ou
c'est pas impossible après à voir comment ça peut être amené, faut pas non plus mettre la personne en difficulté
effectivement ouais, parce que il y a voilà. ce volet là. Arthur, je crois que tu voulais intervenir, vas-y je t'en
oui.
prie.
Je vais revenir sur l'âge, il y a sur certains sites où je suis allé chercher les chroniques et tout ça. Bah, ou quand j'ai préparé les chroniques, c'était déconseillé au moins de 13 ans même.
Alors, est-ce que c'est spécifique à l'association, les 12 ans, ou c'est un âge un peu minimum sur lequel la réalité virtuelle se base?
Comme je disais, il n'y a pas d'études fixes, en fait, ça reste en fait assez arbitraire, donc après, c'est une moyenne en fait, qu'on a constatée.
C'est du 12-13 ans, en fait, c'est un peu ça.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Oui, alors c'est pas 12-13 ans chez tout le monde. Hein. Il y a des gens qui font tester ça dès 5 ans, des associations, etc., de jeux. Alors en revanche, est-ce que, question un peu plus large, est-ce que la réalité virtuelle, c'est l'avenir du jeu vidéo, selon toi ? Parce que c'est vrai que c'est un secteur qui explose, ou en tout cas qui évolue rapidement en ce moment, notamment on le voit avec la PlayStation VR, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo, tout simplement ?
Là, c'est plus en fait à titre personnel parce qu'on c'est pas un débat en fait qu'on a eu au sein de l'association. Personnellement, en fait, je dirais non. C'est juste une nouvelle façon de jouer parce que à une époque, par exemple, on a les jeux en trois dimensions qui sont arrivés, donc fin des 90, début 2000, avec la PlayStation 1, on a eu la Nintendo 64, etc. Et aujourd'hui, en fait, on joue encore à des jeux en deux dimensions. Il y en a encore aujourd'hui en fait qui sortent. Il y a encore des jeux en fait en 3D. C'est une nouvelle façon en fait de jouer et encore c'est une plus grande ouverture sur ce qu'est en fait plus de possibilités sur ce qu'est en fait le jeu vidéo et comment en fait il peut se présenter.
Oui, voilà, c'est une alternative en fait finalement au jeu vidéo actuel. Après,
c'est ce qui se fait déjà, oui.
C'est une évolution. En revanche, est-ce que les jeux vidéo sur lesquels il y a d'autres objets connectés, je pense notamment aux jeux de guerre où maintenant il existe des gilets pare-balles carrément, on met un gilet pare-balles avec un casque de réalité virtuelle et dès qu'on se fait tirer dessus, il y a vraiment des petits impacts sur ce gilet-là. Est-ce que ça, c'est vraiment le jeu vidéo de l'extrême finalement? C'est vraiment le stade le plus abouti, je dirais, du jeu vidéo, non?
Donc après, je peux comprendre qu'on veuille en fait utiliser ce type en fait d'accessoires pour justement créer en fait encore plus d'immersion. Mais après, c'est une question en fait à se poser aussi. Est-ce qu'il faut pas mettre une limite en fait à ce type de jeu? Parce qu'au final, est-ce qu'on n'arriverait pas au bout d'un moment en fait dans un simulateur en fait de guerre et un logiciel, je veux pas être alarmiste, hein, mais d'entraînement en quelque sorte. C'est des craintes en fait qui pourraient que j'ai vu en fait quelque part aussi. Des inquiétudes en fait qui peuvent en fait apparaître et que je trouve en fait légitimes. Après, le jeu vidéo, des fois, on a tendance en fait à le diaboliser en fait un petit peu sur certains points. Après,
notamment sur celui de la violence. Hein, on a beaucoup tapé sur les jeux vidéo dans les histoires tueries, etc. Ouais,
c'est ça.
Influencé.
Mais
par
après,
les jeux
vidéo. Je pense surtout que c'est une question en fait, selon la personne, de ce qu'on recherche en fait dans le jeu et surtout si on est capable en fait de séparer en fait réalité et virtuel.
Oui, c'est vrai, c'est ça la vraie question finalement, réussir à séparer les deux.
Oui, donc il y a beaucoup d'en fait personnes en fait dans l'association qui ont beaucoup joué en fait aux jeux vidéo. J'ai personnellement fait des jeux en fait qui sont assez violents et je pense pas être le gars le plus violent du monde.
Arthur, je t'ai vu lever la main. Ouais.
Moi, je pense que même dans le futur, même la VR pourrait même servir pour l'armée, peut-être.
Oui, alors effectivement, il y a déjà des simulations et des simulateurs qui existent avec la réalité virtuelle, voire augmentée, voire les deux d'ailleurs. C'est aussi un avantage parce que tu parlais justement des simulations de guerre, mais pour le coup, ça peut être un avantage aussi pour former des personnes sur des métiers complexes, sur le terrain, sur un terrain forcément dangereux pour l'armée en tout cas.
Ou pilote de ligne, par exemple.
Ou pilote de ligne, effectivement. Et alors ça, c'est de la réalité augmentée ou virtuelle, par exemple
Les
simulateurs de vol.
De ceux, en fait, des images en fait, que j'ai, c'est des cabines en fait, qui sont recréées, où on a, en fait, au lieu d'avoir des hublots, en fait, des écrans. Mm-hmm. Et on a des jeux en fait, vidéo, en fait, où on peut être dans un cockpit avec le casque en fait, sur les yeux, sans avoir besoin de reconstituer tout ce cockpit. Donc ça, c'est une technologie aussi qui peut permettre en fait, à chacun d'accéder en fait à ce type en fait de simulateur ou même de simulateur en fait de conduite et pouvoir avoir l'occasion au passage par exemple de faire des tours de piste autour d'une voiture sportive avec une voiture sportive etc. Donc il y a plusieurs jeux en fait qui existent en fait comme ça, des simulateurs de vol, simulateurs aussi de spatial comme je pense à Elite Dangerous où avec un joystick et le casque on est dans un vaisseau spatial et on peut piloter en fait un chasseur, on est dans l'espace et jouer un petit peu à Star Wars.
Et ça, typiquement, est-ce qu'on peut imaginer dans 10-15 ans ce genre de choses dans les foyers ? Avec l'évolution de la réalité virtuelle, est-ce qu'on peut retrouver dans 10 ans, je me lève, voilà, j'ai envie de jouer, j'ai envie de prendre un avion, je me mets avec mon casque, avec mon simulateur, et je me pose devant ma console et je joue à voler quoi avec un avion. Est-ce que c'est possible, envisageable?
Si le matériel en fait devient financièrement en fait un peu plus accessible, pourquoi pas, sachant qu'après aussi ça représente beaucoup de matériel. Ça dépend aussi de la place en fait qu'a chacun.
Oui, c'est déjà possible en fait avec le PlayStation VR.
Alors
c'est
oui,
déjà possible.
Mais ça reste un matériel coûteux dans tous les cas.
Oui, quand même.
Et qui prend de la place.
Plus de.
Ouais.
Ouais, ouais. Alors justement, le coût, un casque grosso modo de réalité virtuelle, c'est un très bon casque. L'Oculus Rift, c'est autour de 1 000 euros, je crois, un peu moins.
Non, 800. On a beaucoup moins aujourd'hui.
900,
ça devient de plus en plus. On a encore baissé.
Encore, tu sais, c'est 900 ou 700.
Le plus accessible aujourd'hui, donc, c'est le PlayStation VR, qui va être entre 300 et 400 euros. Donc, où la qualité, en fait, on va avoir un début de réalité virtuelle, en fait, correct, où on peut bouger un petit peu, parce qu'il y a une caméra qui va détecter, en fait, nos mouvements, on va avoir des manettes dans les mains, à
même
détection de mouvement.
Excusez-moi. Même maintenant, il me semble qu'il y a un nouveau produit qui est sorti de chez Acer, qui embarque directement sur PC, où faut pas avoir une grosse config pour le faire tourner. C'est le Acer, je sais plus quoi, c'est un casque de réalité virtuelle qui a été créé. Vous avez deux caméras directement dessus, il n'y a plus besoin de capteurs comme sur l'HTC Vive, et vous pouvez directement contrôler à partir des manettes où les caméras détectent l'espace et tout ça en fait.
Il y a énormément de casques en ce moment en fait qui sont en train de se faire, donc il y a beaucoup de sociétés en fait qui se testent en fait à ce type de technologie, lesquelles en fait vont sortir du lot, on le verra bien. Donc là en fait il y en a trois principaux en fait qui sont au jour d'aujourd'hui. Donc le fameux PSVR qui, on va dire l'entrée de gamme, qui est entre 300 et 400 euros, ça représente quand même le prix de la console, donc c'est quand même un investissement. On a après, donc sur PC, donc en réalité virtuelle, ce qui se fait mieux aujourd'hui, c'est le PC, parce que le PC, en fait, est une machine en fait plus puissante en fait qu'une console.
Une puissance graphique bien plus développée par rapport à une console, en fait.
Donc avec plus de possibilités, où là on va être entre 400 et 500 euros. Et bien au-dessus, on va avoir le HTC Vive, donc qui permet, donc là on est dans les 800 euros, et qui nous permet de plus de liberté.
Ouais.
Qu'on l'a en fait avec les deux casques dont j'ai parlé en fait précédemment, parce qu'on va pouvoir mettre deux capteurs en fait dans une zone qui fait à peu près 9 à 10 mètres carrés, où par exemple sur le PSVR on doit être face à la caméra et faire un ou deux pas, mais grand maximum. Là on a tout cet espace en fait pour pouvoir évoluer, manipuler les objets, se pencher, ramasser quelque chose, et permettre en fait plus, beaucoup plus d'immersion.
C'est la référence d'ailleurs aujourd'hui sur le marché de la réalité virtuelle, ce casque-là.
C'est la référence pour...
pour les joueurs PC.
Pour le jeu en tout cas. Ouais.
Pour le jeu, ouais. Ok. Concrètement, vous, en tout cas l'association PlayerUp, vous avez combien de casques, combien de jeux aussi de réalité virtuelle?
On a trois casques en fait au jour d'aujourd'hui.
Ok.
Donc tout dépend en fait quelle expérience on veut faire vivre, sachant que par exemple le HTC Vive demande beaucoup plus de place, le PSVR en fait étant plus restrictif en fait, il demande aussi moins d'espace en fait de jeu. Et oui, on a peut-être une petite dizaine de jeux avec des expériences complètement différentes, dont certains coopératifs, même si en fait on a un casque qui nous isole un petit peu. Du monde extérieur. Il y a des jeux coopératifs qui apparaissent.
Et alors pour le coup, le jeu, c'est un jeu spécifique VR, on va utiliser le sigle, c'est un jeu spécifique VR ou n'importe quel jeu peut être adapté à la réalité virtuelle?
Il faut en fait avant tout que le jeu ait été développé pour la réalité virtuelle.
C'est un peu comme la 3D en fait, si le jeu n'a pas été fait en 3D, c'est compliqué de le faire changer quoi.
C'est un peu ça, je sais qu'il y a des modeurs, donc pour définir un petit peu les modeurs, c'est donc des passionnés qui vont développer en fait des différents outils pour sur PC et qui ont permis en fait à certains jeux vidéo qui étaient en 3D en fait à l'origine, de pouvoir y jouer en fait sur le casque. Par contre, on pourra pas utiliser les manettes dédiées à la réalité virtuelle, on va devoir y jouer au clavier, à la souris ou la manette en fait classique, mais ça va nous permettre en fait d'évoluer en fait dans ce jeu-là. Donc c'est des gens qui se sont amusés souvent en fait à titre personnel et bénévole en fait à modifier le jeu et l'adapter en fait aux technologies d'aujourd'hui.
Oui, Arthur.
Donc, par exemple, je vais reprendre typique le jeu que Assetto Corsa. Je sais pas si vous connaissez.
Je le connais pas, non.
C'est un jeu de simulation de voiture, donc on peut y jouer avec un volant et tout ça. Et à la base, c'était juste un truc qui se jouait sur un écran. Donc, un écran basique.
En 2D, du coup, pour le coup, ouais.
En 3D, mais.
En 3D, carrément, ok.
On pouvait le jouer avec des lunettes et tout ça. Mais ce jeu-là a pas été remodifié, en fait. Il s'est aussitôt adapté à l'HTC Vive. Donc après ça, je me suis pas plus renseigné sur ce sujet-là, mais il s'est adapté aussitôt à l'HTC Vive.
Oui, en tout cas, c'est possible d'adapter un jeu vidéo après au casque.
Et en sachant que le jeu, ça fait quand même à peu près 5 ou 6 ans qu'il existe. Donc, ouais.
Petite question, alors Samuel, évidemment, toi, tu as déjà testé des casques de réalité virtuelle. Est-ce que Julie et Arthur, vous avez déjà testé ça? Un jeu en réalité virtuelle ou pas?
Oui, moi j'ai déjà testé le PlayStation VR. Mais pas le HTC Vive, j'ai juste plus pu le poser sur mes yeux, mais sinon...
Et toi, Julie?
Alors moi, je sais pas ce que c'était comme machine, mais j'étais dans une petite pièce, j'avais un casque, et j'ai joué à plusieurs jeux, donc il y avait le fameux jeu qu'on joue sur smartphone, Fruit Ninja, donc j'étais le ninja, et c'est moi qui coupais les fruits, et du coup, l'histoire du building, j'étais un pompier avec ma hanse, je m'envolais au-dessus des buildings. Et voilà, quoi. Mais c'était fun, c'était sympa.
Et alors, quelle sensation, on peut peut-être parler concrètement de ce que ça procure? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, ce test-là?
Moi, je sais que quand j'ai testé le PlayStation VR, c'était la DreamHack à Tours. Il y avait un stand qui permettait de tester ça. Et il y avait les manettes et tout ça, j'ai testé, c'était vachement immersif, même au moment j'ai failli même mettre un coup de poing à quelqu'un, vu que moi je rentre vite fait dans l'immersion aussitôt, plus vite dans un jeu en fait, je m'immerge totalement dans un jeu le plus rapidement possible.
Oui, on oublie aussi l'espace.
C'est ça en fait, la notion du temps et l'espace en fait, on oublie. Donc ce qui fait que j'ai tapé trois fois dans un meuble, j'ai tapé j'ai failli mettre des coups de poing à certaines personnes et tout ça. Donc c'est un petit peu dangereux, il faut quand même avoir une pièce totalement dédiée pour jouer à l'HTC Vive ou au PlayStation VR.
Est-ce que vous avez justement, vous, une pièce spécialement dédiée pour ce jeu-là,
Non, on n'a pas en fait de locaux qui nous permet justement de proposer ce type d'expérience. Mais lors en fait d'événements où on va se déplacer, où on a suffisamment en fait d'espace, on a la possibilité de délimiter en fait une zone. Une zone de jeu. Donc après, c'est vrai que le problème avec la réalité virtuelle, c'est qu'on l'a vu plusieurs fois où des gens qui ont tendance à s'immerger en fait très rapidement vont avoir tendance en fait à oublier en fait
la notion de l'espace.
Voilà. Bah l'espace en fait tu vas l'avoir, mais c'est juste que tu vois pas en fait l'obstacle. tu vas être en fait dans l'univers et puis potentiellement en fait s'il y avait un meuble en fait à un moment donné, bah tu l'as oublié, ce que tu le vois plus, t'es dans le jeu, t'es dans le scénario,
c'est déconnecté en fait
pour information, le HTC Vive donc il nous permet de délimiter cette fameuse zone d'à peu près 10 mètres carrés. Lorsqu'on sort en fait de, ou du moins on s'approche de la délimitation en fait de la zone, on a en fait une grille bleue, un grillage en fait qui apparaît, qui nous dit en gros ne va pas plus loin, parce que sinon en fait ici t'as un mur, t'as un meuble, etc. Donc on peut au préalable en fait en installant le matériel délimiter en fait cette zone. Donc par contre bien sûr si quelqu'un rentre dans la zone, cette personne-là ne va pas apparaître en fait dans le jeu. Ça a ses limitations, mais comme je parlais en fait tout à l'heure de ce fameux casque avec la caméra en fait qui est dessus, qui n'est pas encore exploité en fait au jour d'aujourd'hui, mais ils l'ont fait en fait à titre d'évolution.
Il y a un casque qui est sorti, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais.
Et bien en fait,
qui a été créé par Microsoft et par
Valve en fait a prévu en fait cette caméra pour de futurs jeux, et pourquoi pas en fait à un moment s'il y a un obstacle qui apparaît dans cette zone de jeu en fait qu'il apparaisse et qu'on n'oublie pas en fait que on est juste dans un jeu et faut faire attention en fait à ce qui est autour de toi.
Est-ce que le rêve, un rêve, est de la réalité virtuelle? Ah, c'est une bonne question, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le rêve, en soi, c'est aussi faire partie d'un univers finalement abstrait. Et pourtant, on est bien plongé dedans. Est-ce que ça peut être apparenté à de la réalité virtuelle?
C'est moi qui pose la question.
Ah, c'est à vous trois. Je voulais savoir. C'est une question qui m'est tombée dans la tête là pendant la pause musicale. Du coup, je me suis dit, je vais vous la poser.
Je suis pas sûr que tu puisses apparenter ça en fait à un rêve, parce que souvent un rêve on a tendance en fait à l'oublier, alors que quand t'as une expérience de jeu, à moins que le jeu ait été un petit peu médiocre, j'espère que tu l'oublieras pas.
Ouais, c'est une réponse, hein.
Ouais.
C'est une réponse. C'est vrai. Après, évidemment, c'est peut-être exagéré comme question, parce qu'il y a aussi cette notion de virtuel, et pour le coup, le rêve, ça appartient quand même au corps humain et à l'esprit en tout cas. En tout cas. On est toujours là, on parle de réalité virtuelle. Est-ce que vous, en tout cas l'association PlayerUp, est-ce que vous allez développer un peu ce côté réalité virtuelle? Est-ce que vous êtes en train de le faire? Comment ça va se passer un peu à l'avenir?
On est en train de le faire. Donc le but aussi de l'association, c'est de proposer en fait différentes expériences de jeu et en fait à proposer en fait à un maximum de personnes de justement des expériences auxquelles on peut du moins, on peut pas ou difficilement en fait avoir. Donc, c'est aussi l'occasion en fait pour l'association de montrer en fait ce qui se fait aujourd'hui. Donc, on fait du rétro gaming, on fait des tournois, des trucs. En gros, sur les jeux qu'on propose, on va aller des années 70-80 en fait à aujourd'hui. Donc, on essaie de se tenir un minimum en fait au courant de ce qui se fait en fait aujourd'hui, proposer justement. De nouvelles expériences, faire profiter un maximum en fait de monde, et comme je disais en fait tout à l'heure, c'est du matériel en fait assez coûteux, donc
ça se fait au fur et à mesure aussi.
Disons que nous on a la possibilité d'investir dans ce type de matériel, en faire profiter en fait un maximum de monde, au lieu que ça soit du matériel qui est acheté pour une personne ou au sein de la famille, et que ça soit limité, on va dire, au nombre de personnes qui peuvent en profiter.
Arthur,
j'ai une question. Donc, si on souhaite se lancer, pas se lancer, mais jouer à la VR chez nous, tout ça, sur PC ou sur console, en sachant qu'on n'a pas la console ni le PC, faut prévoir un budget de combien? Après, ça peut dépendre de ce que vous achetez aussi. Mais
alors, si tu veux aller au moins cher, alors il te faut une PS4. Donc, on va dire, tu la prends d'occasion, si tu t'en sors bien, tu la trouves à 200€. Il te faut donc le casque. Le casque, si tu trouves d'occasion, tu peux l'avoir entre 200-300€. Ouais. Même prix de la console, ce que je disais en fait tout à l'heure. Donc là, t'arrives entre 400-600€. Faut prévoir les jeux. Les jeux, tu vas peut-être les avoir entre 20. Quand je parle de jeux, en fait, tu prends le jeu qui est dédié en fait à ta console, bien sûr. Oui. Donc, et tu vas compter entre 20-40€ le jeu. Après, si t'en veux plusieurs, tu cumules. Donc, ouais, tu peux arriver déjà, on va faire une moyenne de 500€ minimum.
Ah oui, ça fait quand même...
Ça fait une petite somme.
Donc j'imagine pas quand c'est sur PC. En sachant qu'il faut une bonne config pour déjà bien faire tourner la VR.
Pour un PC, tu vas prendre en fait un ordinateur qui a minimum 1200-1500€.
Après, ça peut défendre de la config que vous faites.
C'est ça.
Après, si vous achetez un PC portable à 1200 €, c'est logique. Si vous faites une tour à 1500 €, vous pouvez très bien avoir la double de la puissance.
Si ton ordinateur, tu veux le garder le plus longtemps possible, je te conseille plus d'utiliser un ordinateur de bureau. Disons que comme c'est très gourmand en énergie, ta machine va beaucoup chauffer. Et si c'est un ordinateur portable, c'est comment dire, c'est.
Oui, d'ailleurs, les gamers, ils jouent pas sur un ordinateur portable.
Ah, j'en vois de plus en plus.
Ah, c'est vrai. Ah, d'accord.
J'en vois de plus en plus. À moins en fait d'avoir une machine en fait plutôt bien ventilée et qui pèse en fait 3 ou 4 kilos, le PC portable, c'est, je le conseille pas pour le jeu.
Après, ça peut dépendre.
Si tu tiens à ta machine, on va pas aller dans le, genre de détails. Donc après, si tu prends le casque pour PC, en fait le moins cher, tu prends l'Oculus, tu es dans les 400 €. Donc oui, t'es entre 1600-2000 € pour du PC, donc avec une expérience un petit peu mieux.
Ouais.
Donc tu peux, ça peut vite faire flamber la carte bleue.
Ouais, effectivement. Julie, ça te donne pas envie de te mettre à la réalité virtuelle ces sommes-là?
Ben, je vais faire ma liste au Père Noël, on verra ce qu'il en pense.
Bah, c'est bientôt, pour le coup. Je rebondis sur les prochains événements que. Les prochains événements que vous allez faire, Player Up. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'il y aura aussi déjà des événements de prévu concernant la réalité virtuelle?
Alors, là, on est en train de faire notre programme pour les 3-4 en fait, prochains mois, où on veut justement intervenir dans différents bars et. Donc d'autres lieux en fait où on voudra bien en fait nous accueillir. Donc on n'a pas de date en fait fixée pour le moment, donc c'est on est en plein travail en fait dessus, et donc tous nos prochains événements seront sur notre page Facebook. Donc pour trouver notre page, donc il faut rechercher Association Player Up, pas juste Player Up parce que sinon ça se noie un petit peu dans la masse malheureusement, ou bien Association Player Up. Donc on fait toujours de l'information sur nos prochains événements. Donc,
Et vous avez un site ou pas?
Non, on n'a pas de site. Ah. Juste une page Facebook où on communique justement sur nos événements, où est-ce qu'on est. Donc, la réalité virtuelle, pourquoi pas? Donc, après, à voir quand on mettra ça. C'est sûr, dans tous les cas, dans les prochains mois, on en proposera. Donc, dans une ambiance en fait qu'on veut un peu plus décontracté que sur les gros salons où il y a beaucoup de files d'attente, où on fait des expériences en fait de 5 minutes, si on peut. Et qu'il n'y a pas, ça dépend bien sûr aussi de la fréquentation, mais s'il n'y a pas en fait énormément de monde, qu'on puisse prendre plus le temps, faire des expériences de jeu en fait un petit peu plus longues et prendre le temps, qu'on soit une ambiance en fait un petit peu plus cool. Après, plus classiquement aussi sur notre programmation, on compte faire des tournois de Street Fighter, de Super Smash, de Mario Kart et faire des événements et des tournois en fait pour un peu tout le monde, pour des gros joueurs et pour des joueurs en fait un peu plus occasionnels.
Oui, alors parce qu'on a évoqué la réalité virtuelle, mais vous ne proposez pas que ça. Vous proposez aussi évidemment du jeu vidéo classique. C'est pour ça que tu parlais de ces tournois-là.
Oui.
Pour l'association Player Up. Merci beaucoup en tout cas, Samuel, d'être venu. Arthur, non, dernière question.
J'avais une dernière question.
Pour conclure.
Une question, quand vous faites des tournois jeux vidéo, vous faites du CSGO ou du League of Legends?
Alors pas du tout, on est surtout en fait sur du jeu en fait console. Okay. Où, donc après c'est surtout en fait pour des raisons on va dire clairement logistiques.
Budget aussi?
Budget non. Non, c'est vraiment en fait pour des questions en fait de logistique, où une console ça reste quand même plus simple à mettre en place que plusieurs ordinateurs où on va réunir les gens et qui vont passer une après-midi à faire une rencontre sur tel ou tel type de jeu. On se veut en fait le plus ouvert possible en fait à un large public. Et donc par exemple Counter-Strike en fait c'est un jeu de niche clairement. Donc là c'est vraiment en fait un public très particulier, très resserré. Et quand on veut faire par exemple un tournoi Mario Kart, là on est vraiment plus ouvert. Super Smash qui est beaucoup plus ouvert.
Parce que c'est du Mario aussi, donc ça va mieux fonctionner qu'un CSGO ou qu'un League of Legends.
Oui, c'est ça. Ou alors si tu veux faire en fait un tournoi PC un peu plus ouvert, je pense aussi à Rocket League.
Ou non, pas Overwatch.
Voilà, donc ouais, là c'est vraiment des communautés particulières.
C'est les experts des jeux vidéo, moi je suis un peu dépassé là. Heureusement que c'est bientôt la fin de l'émission, hein, parce que là je commençais à plus rien maîtriser de ce que vous dites. Non, merci en tout cas Samuel encore une fois d'être venu nous parler de tout ça. On le rappelle une dernière fois, la page Facebook Association Player Up, c'est ça, voilà, comme ça vous aurez toutes les petites infos, chers auditeurs, sur l'association Player Up et pour éventuellement tester de la réalité virtuelle.
Et d'autres jeux que vous connaissez pas du tout et qui sont pourtant super, super fun en fait à jouer avec d'autres personnes, dont des jeux à 8, 9 joueurs par exemple.